bonsoir. Plus d'un million de personnes, soit environ 18% de la population totale de la province de l'Ituri ont été affectées en 2024 par la double crise sécuritaire et humanitaire qui secoue cette région depuis plusieurs années. Ces chiffres alarmants ont été dévoilés par Médecins sans frontières mardi 27 mars à Bounia lors de la présentation de son nouveau rapport de plaidoyer intitulé « Risquer sa vie pour sauver des vies ». Ce rapport dépeint un tableau sombre de l'impact de la situation sécuritaire sur les interventions humanitaires en Ituri. Il met également en lumière les témoignages poignants des victimes des violences sexuelles ainsi que les nombreux obstacles empêchant l'accès aux zones d'intervention. MSF alerte la communauté internationale et les autres organisations humanitaires sur la détérioration croissante des conditions humanitaires et sanitaires dans la province de l'Ituri. Médecins sans frontières recommande au gouvernement congolais de veiller au respect du droit international humanitaire par toutes les parties impliquées dans les conflits et d'allouer des moyens adéquats pour renforcer le système de soins de santé en Ituri. Quelle lecture faire de ce rapport? Nous en parlons ce soir avec Emmanuel Lompard, qui est représentant au pays de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo. Emmanuel Lompard, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Michel Metawani, président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Il a dit en sigle, c'est une structure qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri. Michel Metawani, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les déco-débatteurs et je salue tous les auditeurs de la radio Okapi.
Casimir Ngoubi est également avec nous dans cette émission. Il est professeur et politologue, expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur Casimir, bonsoir.
Bonsoir madame Kelly Côté, bonsoir chers co-débatteurs, bonsoir à les auditeurs de la radio Okapi, la radio de la paix.
Merci professeur. À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la 104.9 et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net, sur DSTV canal 867. Vous pouvez également suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans le sommaire, plus d'un million de personnes ont été affectées en 2024 par la double crise sécuritaire et humanitaire qui secoue l'Ituri depuis ces dernières années. C'est environ 18% de la population totale de la province. C'est Médecins sans frontières qui dévoile ces chiffres. C'était mardi à Bounia lors de la présentation de son nouveau rapport de plaidoyer intitulé « Risquer sa vie pour sauver des vies ». MSF s'est dit inquiète de l'accentuation de cette crise qui risque de s'aggraver, notamment à cause de la suspension des financements de certaines organisations humanitaires. Ezekiel Mouzalia nous en dit plus.
Dans sa présentation, le chef des missions de Médecins sans frontières dresse un tableau sombre de l'impact de la situation sécuritaire sur les interventions humanitaires en Ituri, secouées par l'activisme et des groupes armés. C'est entre autres dans les zones de santé d'Angoumou, Drodro ainsi qu'à Bounia, où cette organisation apporte en même temps un appui humanitaire et sanitaire aux personnes affectées par la guerre. Outre cela, ce rapport cite des témoignages des victimes des violences sexuelles, des déplacements continuels des populations, mais aussi les obstacles d'accès aux zones d'intervention. MSF alerte la communauté internationale ainsi que d'autres organisations humanitaires sur la dégradation croissante de la situation humanitaire et sanitaire en Ituri. Alira Alidou, chef des missions MSF en Ituri.
Médecins sans frontières se doit d'alerter pour éviter que l'Ituri ne tombe dans l'oubli dans ce contexte où l'Est de la République démocratique du Congo traverse une crise profonde. Attirer l'attention des bailleurs de fonds sur les conséquences des coupes budgétaires et les implications sur les personnes les plus vulnérables.
MSF demande au gouvernement congolais de s'assurer pour que le droit international humanitaire soit respecté par toutes les parties en conflit en province. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Merci Ezekiel Mouzalia pour tous ces détails. Emmanuel Lompard, je rappelle que vous êtes représentant pays de Médecins Sans Frontières en RDC. Votre nouveau rapport intitulé « Risquer sa vie pour sauver des vies » dresse un constat alarmant de la situation dans la province de l'Ituri. Est-ce que vous pourriez-vous nous dire quelles sont les principales raisons qui vous ont poussé à publier ce rapport maintenant?
Merci beaucoup, madame. La province de l'Ituri, comme vous l'avez évoqué, située dans le nord-est de la RD Congo, ce n'est pas depuis hier qu'elle est secouée par des violences, elle l'est depuis des décennies. Et après une accalmie depuis 2007, une résurgence des violences jusqu'à l'heure qu'on parle, et notamment avec une résurgence des violences en ce premier trimestre de l'année en cours, nous a clairement marqué. Des attaques armées, des violations du droit international humanitaire ont causé des pertes humaines, des traumatismes profonds, des déplacements massifs de population et des besoins humanitaires accrus. Alors, en parler aujourd'hui est d'autant plus nécessaire à un moment ou à l'heure où des organisations humanitaires fragilisées par des suspensions de financement de début 2025 ont déjà annoncé l'arrêt de certaines de leurs activités dans la région. Or, comme le titre du rapport le dit, il y a pas mal de gens, d'êtres humains. Mettons en avant l'humanité, la dignité humaine. 18%, voire 20% de la population totale, elle est déplacée. Violence faite aux civils. Et en plus, nous mettons en lumière humblement, à travers ce rapport, le besoin de toujours et encore respecter la mission médical, la mission médico-humanitaire.
Alors, quels sont les objectifs principaux de ce rapport? Est-ce que vous souhaitez alerter une audience en particulier?
Nous souhaitons effectivement alerter, mais avant tout, relayer la voix de ceux et celles qui n'ont pas ou qui n'ont pas assez de voix. Donc ceci d'abord en mémoire à tous ceux qui ont péri et à tous ceux et celles que nos collaborateurs terrain ont admis, ont essayé au mieux de soigner dans les différentes structures, aujourd'hui à Drodrodjougou, à Ngoumou Mahagi, voire dans notre structure Salama à Bounia. Mais en effet, ce témoignage, parce que c'est un rapport avec beaucoup de témoignages, nous essayons de laisser parler les victimes, les bénéficiaires, les communautés, les patients, c'est lancer des appels forts. Et je crois que les deux appels clés, c'est même en zone de conflit, même quand il y a des tensions intercommunautaires et autres, il y a certaines règles à respecter. Le droit humanitaire international continue à s'appliquer. Le respect pour les formations sanitaires, le personnel, les patients, les accompagnants, mais aussi les moyens qui assurent la continuité des soins, le référencement et le contre-référencement doit être assuré. Et deux, c'est effectivement tirer l'attention sur une zone, une crise qui parfois rentre, comme mon collègue Abounia l'a pointé, dans l'oubli, qui sombre dans l'oubli, qui semble négligée. Et donc on appelait au gouvernement et aux bailleurs, aux organisations avec une capacité de soulager la souffrance, de ne pas abandonner, mais de continuer à être au service de la population de la RD Congo.
Le rapport mentionne que plus d'un million de personnes sont affectées par la double crise sécuritaire et humanitaire en Ituri. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'ampleur des besoins humanitaires sur les terrains?
Premièrement, nous mettons en avant avec vous ce que vous avez mentionné, environ 1,4 million, c'est-à-dire 20% de la population totale, est aujourd'hui déplacée à cause des violences. La nature prolongée de ces déplacements est déjà quelque chose. Mais ensuite, nous sommes confrontés à des violences faites envers les civils, avec des conséquences physiques et psychologiques assez importantes. Je crois une des chiffres de ce rapport qui est assez parlant, c'est 63% des patients qui se présentent, que nous prenons en charge, montrent clairement des séquelles et des traumatismes psychologiques. Elles sont, ces traumatismes psychologiques, omniprésents chez les personnes exposées à des épisodes violents, mais alors des épisodes violents répétés, se traduisant par du stress post-traumatique, des troubles anxieux et des dépressions. Sans oublier qu'il y a aussi, malheureusement là, de violences sexuelles.
Alors, vous êtes présent sur le terrain en Ituri. Quels sont les principaux types d'assistance humanitaire que vous, MSF, vous fournissez actuellement dans cette province?
Alors, il faut mentionner que c'est depuis 2003, sans interruption, que nous sommes présents en Ituri. Mais bien évidemment, en fonction de l'évaluation des besoins, nous adaptons les programmes. Alors, aujourd'hui, comme mentionné, nous sommes présents dans la zone de santé de Trodro, territoire de Djougou, zone de santé Ngoumou, territoire de Mahagi et Bounia. J'en profite, la question pourrait se poser, pourquoi pas présent dans les territoires de Iromou et Mambasa. Je ne peux que rappeler que Médecins Sans Frontières, là, est toujours et encore dans le deuil vis-à-vis le fait que depuis 2014, nous sommes sans signe de vie d'une équipe de 3 personnes enlevées à Kamango Beni, et donc dans toute la zone dite avec présence ADF. Pour le moment, nous n'envisageons pas d'intervenir. Ceci dit, comme vous l'avez évoqué, là où nous sommes présents, c'est en appui aux structures de première ligne, les centres de santé, avec un référencement vers l'hôpital général de référence.
Est-ce que cette assistance est suffisante face à l'ampleur des besoins?
Non, elle n'est pas suffisante. Nous essayons au mieux de soulager là où nous sommes présents. Nous essayons effectivement aussi de mobiliser ceux et celles qui ont une responsabilité primordiale dans la gestion des camps et dans les différents secteurs comme eau, assainissement et ou abri. Et bien évidemment, la priorité ou le point d'entrée pour les Médecins Sans Frontières, c'est le travail médico-humanitaire. Mais il arrive parfois de devoir combler les gaps qui sont laissés par les uns et les autres.
Michel Metsawani, vous êtes président de l'Union des associations culturelles pour le développement des Lituri, UNADI en sigle. C'est une structure qui regroupe toutes les communautés des Lituri. Comment percevez-vous la situation humanitaire et sécuritaire dans votre province, telle que décrite dans le rapport de MSF? Est-ce que les chiffres et les constats correspondent à ce que vous observez au quotidien?
Oui, madame, merci de m'avoir encore accordé la parole et je réitère encore mes salutations à mes deux co-débatteurs sur le plateau. Et ce qui est vrai, je dois d'abord saluer le rapport de MSF qui a présenté les tableaux sombres de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri. Ça, c'est de un et de deux. Et il fallait noter que l'Ituri, ça fait 7 ans, est en train de traverser une situation difficile de son temps à cause de groupes armés et qui sont nés dans les communautés et de groupes armés qui ont migré d'autres provinces à l'Ituri et de rebelles qui ont quitté leur pays pour venir endeuiller la province de l'Ituri. Et l'Ituri est dans ces méandres de violences dues à ces groupes armés. Et il fallait, madame, noter ce qui est très important. Il y a plus de 64 sites de déplacés dans la province de l'Ituri. Et tous ces sites de déplacés, les populations de l'Ituri qui sont en déplacement vivent dans des conditions difficiles. Parce que toutes ces populations ont quitté leur village, ont quitté leur milieu et cette population est exposée à tous les maux qui sont dans cette région. C'est pourquoi nous, comme la population de l'Ituri, nous sommes en train d'observer comme si l'État est devenu assez trop faible à l'Ituri parce que l'hémorragie continue à ronger la population de l'Ituri. Alors, ce qui laisse que tous ceux qui se sont déplacés à l'intérieur et il y a ceux qui se sont déplacés à l'extérieur sont dans des conditions difficiles. Et donc, madame, peut-être pour rappel, et pour vous dire que la situation n'est pas bonne dans la province de l'Ituri, rappelez-vous que lors de la littorale de lac Albert, il y a eu un affrontement, ça fait de cela, est-ce que je crois, un mois, et la population a quitté plusieurs localités. Et dans ces localités, il y a ceux qui ont quitté le village de Jo, des cafés, des Tchomia. Ils se sont déplacés soit à Kasséni, se sont déplacés soit à Bunia, ou soit il y a ceux qui ont traversé la frontière vers l'Ouganda. C'est ça ce qui montre les tableaux sombres. Et dernièrement aussi, à Fatak, il y a un affrontement entre les éléments de Codeco et le UPDF, ce qui a fait aussi déplacer la population locale de cette région. Il y a des populations qui ont quitté cette zone, qui ne savent même pas comment supporter les coups de balles qui se crépitent partout. Et la population est laissée dans cette condition très difficile pour le moment.
Et donc, tous ces déplacés ne sont pas pris en charge.
Oui, parce que ces déplacés s'ajoutent sur les anciens déplacés qui étaient déjà dans les sites de déplacés, comme je vais dire le cas de la plaine de lac Albert. Ça, et ce qui se passe par exemple à Fataki, ce sont des cas qui s'ajoutent sur les anciens cas. Et à plus de 64 sites, il y a des déplacés à l'interne qui ne sont pas pris en charge. Et surtout que les acteurs humanitaires ne peuvent pas accéder dans certaines zones où il y a trop d'insécurité, ce qui laisse la population dans une situation qui ne dit pas son nom. Et en même temps, madame, il fallait signaler un élément important. Vous savez que il y a, comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup de sites de déplacés et ces sites de déplacés ne sont pas sécurisés. Et chaque fois, ces sites sont attaqués par les groupes armés, comme par exemple, dernièrement, il y a le cas de Ro, il y a le cas de Plaine de Savo, il y a le cas de Lala, il y a le cas de Loda, il y a le cas de Djaïba. Il y en a autant de camps où le déplacé sont en insécurité parce que l'armée ne couvre pas totalement le besoin de ces populations en sécurité, ni la MONUSCO, et étant donné que tous ces groupes armés ne sont pas désarmés et tous ces groupes armés sont actifs dans la zone et pas seulement dans les territoires de Djougou, il fallait aussi noter dans les territoires de Irumu, précisément dans la chefferie de Banyali Tchabi et dans la chefferie de Walesevokutu. Et à Mambasa aussi, dans la chefferie de Babila Babomi, Babila Bakwanza, toutes ces populations se déplacent à l'interne et parfois la prise en charge pose de sérieux problèmes. Et je crois que le rapport de Médecins Sans Frontières, c'est un rapport qui a tracé le problème de ceux qui traversent les Ituriens. Et ce qui nécessite un regard particulier sur cette question. Et des fois, nous nous demandons, est-ce que notre gouvernement, à travers le ministère d'action humanitaire, est-ce qu'il a un regard dans la province de l'Ituri? Et si vous imaginez, depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement, madame la ministre des affaires humanitaires n'a jamais piétiné la province de l'Ituri. Et nous nous demandons, est-ce que nous faisons réellement la partie de la République démocratique du Congo, où la population a plus de 18%, a plus de 1 800 000 déplacés, ne doit pas inquiéter un ministre qui a la charge de cette question-là. Ça nous inquiète comme population de l'Ituri.
Merci Michel, on va vous redonner la parole tout à l'heure pour votre deuxième tour des tables. Vous êtes très très nombreux sur la page Facebook à réagir au thème de ce soir. Jackson Kisangani qui nous suit depuis la ville de Goma au Nord Kivu, ce rapport n'est pas seulement un constat, mais c'est un appel à l'action. La communauté internationale, les organisations humanitaires, le gouvernement congolais doivent intensifier leurs efforts pour répondre à cette urgence humanitaire. Il s'agit d'une question de survie pour des milliers de personnes en Ituri. Professeur Casimir Ngoubi, vous êtes politologue et expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Professeur, comment vous analysez les causes profondes de cette situation qui perdure depuis plusieurs années dans la province de l'Ituri?
Une fois de plus, Madame Kelly, merci beaucoup pour Radio Okapi. Je voudrais commencer par une citation attribuée à Louis de Bonald, qui faisait allusion aux considérations sur la Révolution française. Il disait ceci, Madame Kelly: dans les crises politiques les plus difficiles, pour un honnête homme, n'est pas de faire son devoir, mais de le connaître. Je voudrais dire ceci: la gestion des conflits en Ituri a excellé dans le tâtonnement et l'irrationalité. Le dialogue entre communautés depuis plusieurs décennies n'a pas donné de solution escomptée. Le pouvoir des élus de cette province a essuyé des échecs. La proclamation de l'état de siège a fini par démontrer ses limites. Vous en doutez, Madame Kelly. Les chefs de l'armée ougandaise, dans ses récents tweets, Kainerou, Gaba, Muhoozi, se permet même de menacer d'arrêter les gouverneurs militaires de l'Ituri et d'aller conquérir la ville de Kisangani. L'UPDF s'est passé de la mutualisation des forces avec les FARDC à la traque de la CODECO sous les regards soit impuissants, soit complices des FARDC. Mais je voudrais être modéré en disant que je doute de ma deuxième hypothèse. Mais ce qui est vrai est que les communs des mortels se posent beaucoup de questions. S'agissant du rapport de Médecins sans frontières de ce jeudi 27 mars 2025, plusieurs hypothèses peuvent être avancées. Je peux en avoir quatre peut-être. D'abord, l'activisme de l'UPDF à l'est de la RDC éloigne l'Ouganda de plus en plus des menaces des ADF. Deuxième hypothèse, madame, l'Ouganda orchestre en Ituri les congocides, c'est-à-dire l'extermination des populations autochtonement congolaises, ce qui du reste permet le pillage des minerais et d'autres ressources. Troisième hypothèse, madame, l'Ouganda voudrait rivaliser le Rwanda dans l'occupation de l'est de la RDC. Et s'il n'y a pas de rivalité, alors, les deux États mutualisent leurs forces, n'est-ce pas, pour au désintérêt que ces deux pays connaissent. La quatrième hypothèse que je voudrais dire, c'est que l'UPDF s'est passé à la phase d'exécution de son plan de protection d'une ethnie contre une autre. Les observateurs avisés savent de quoi je voudrais parler ici, beaucoup plus particulièrement mes frères et sœurs de la province de l'Ituri. Je voudrais conclure ici en disant que l'Ouganda orchestre un carnage en Ituri et ses autorités politiques et militaires doivent être traduites à la Cour pénale internationale de justice, Madame Kelly. Mais aussi, je voudrais me poser une question ou la poser à MSF. Qu'est-ce que fait MSF en amont pour éviter des situations de violence atroce dans notre pays? Il serait plus humain, n'est-ce pas, à ce niveau que de déplorer le carnage. Et je voudrais aussi continuer en m'adressant à mes frères et sœurs qui sont en politique. Je sais ceci, que toutes les disciplines actuellement commencent à se mathématiser. Je voudrais réfléchir de cette manière-là. Je constate que la configuration politique de l'État est fonction de la nature de la gouvernance des élites au pouvoir et du niveau du combat politique de son opposition. Voilà pourquoi j'ai toujours mis mes frères et sœurs ensemble, la classe politique. L'Ituri pleure, c'est mort. L'Ituri est abandonné par ses propres blessés. Et ce qui m'a fait mal, Madame Kelly, dans ce rapport, c'est la mort de cette dame dans son lit d'hôpital. Quel malheur, Seigneur. Voilà donc, dans un premier temps, ce que je constate sur ceux et ces faits qui se produisent en Ituri pendant cette période.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. La réalisation me signale que ça n'arrête pas de sonner sur le standard de Radio Capi. On va ouvrir justement le téléphone hein, pour permettre aux auditrices et auditeurs de pouvoir poser leurs questions. On va commencer par cet auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kiananga, au Kasaï central.
Hervé, depuis Kananga, dans la province du Kasaï central. Nous sommes obnubilés par le rapport publié par le MSF dans lequel il s'insurge contre les actes ubuesques commis contre la population congolaise vivant en Ituri. Chose grave, il rappelle au gouvernement congolais de respecter les règles de droit international humanitaire. Pourtant, les agresseurs qui endeuillent jour et nuit les populations congolaises sont libres et jouissent de leur liberté de manière absolue alors qu'ils ne s'inquiètent de rien. Pourquoi le MSF ne devrait-il pas plaider la victimisation des Congolais auprès des autres organisations internationales afin de leur venir en aide avec tout ce qu'il faut? Nous sommes face à des organisations qui sont souvent autophagiques. Les faits sont établis, pourquoi alors demander à la partie victime d'appliquer les règles du droit international humanitaire si l'agresseur ne les a pas appliquées?
Alors, cette question s'adresse à vous, hein. Emmanuel Lompard, comment vous répondez?
Oui, merci beaucoup. Et avant tout, à notre tour aussi, on salue bien évidemment les co-débatteurs qu'on a pu écouter, tant qu'ils soient à Bounia, à Kindu et à tous ceux qui suivent cette émission. Je crois que c'est tout à fait normal. Et humain, ces questions qui sont posées. Alors permettez que non seulement on répond à cette question, mais aussi à ce que le prof
a pu mentionner.
Je crois, cher auditeur, au niveau de Kananga et avec vous tout le Kasaï central qu'en passant on salue. Non, l'appel elle est là à l'ensemble des parties au conflit. Là-dessus, on veut être très précis. Et bien évidemment, il y a dans tout État des garants de certains aspects. Alors, il y a une particularité envers le gouvernement en tant que garant aussi de l'application et le respect du droit humanitaire international sur l'ensemble du territoire. Mais l'appel, bien évidemment, s'applique à toutes les parties au conflit. Et alors, si vous me le permettez, Madame Becky...
Qu'elle y est, allez-y rapidement.
Voilà, merci beaucoup. Le prof, fallait-il pas mieux prévenir au lieu de guérir? Je crois que nous nous inscrivons humblement à travers ce rapport, qui n'est qu'une représentation en aucun moment exhaustive. C'est un témoignage. Nous disons, c'est en persévérant dans le soulagement, parce que c'est ça le rôle des Médecins Sans Frontières, à chacun, à chaque responsable, son fardeau et son rôle. Le nôtre, nous l'avons clamé depuis les années 70, en commençant par Biafra, c'est de soulager et d'être présent là où les uns et les autres peut-être sont moins présents. Alors, en faisant cela, chaque jour, un tout petit peu, peut-être indirectement, nous essayons de contribuer à ce que la paix puisse revenir au sein de la population.
Alors, vous êtes sur le terrain, Monsieur Emmanuel Lompard. Quels sont les principaux obstacles que vos équipes rencontrent pour accéder aux zones d'intervention et fournir de l'aide?
Avant tout, je crois, Médecins Sans Frontières toujours s'efforce, malgré les aspects sécuritaires, malgré les aspects logistiques d'accès, s'efforce toujours d'atteindre les populations, et puis c'est l'évaluation des besoins qui fait en sorte qu'au final, on détermine les opérations à formuler.
Alors, on va prendre ce deuxième auditeur qui est déjà en ligne. Lui, il nous appelle de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga.
C'est Mutamba Lanyange, bienvenue depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Ce rapport présente à Ituri un double défi. D'une part, la dégradation rapide de la situation sécuritaire et d'autre part, la défaillance des infrastructures humanitaires et sanitaires. La recommandation principale de MSF d'une intervention immédiate et d'un renforcement des moyens de soutien médical est essentiel pour éviter une dégradation encore plus grave de la situation. Ce rapport est aussi un appel à la prise de responsabilité par le gouvernement congolais et à la communauté internationale, soulignant que sans des actions coordonnées et urgentes, la souffrance des civils risque de s'aggraver. La lecture intelligente de ces rapports nécessite de prendre en compte non seulement les chiffres alarmants, mais aussi les implications à long terme pour la stabilité et la santé de la région. Il est crucial de comprendre que l'inaction ou les interventions insuffisantes continueront à aggraver la situation, entraînant des pertes humaines et un affaiblissement supplémentaire des capacités et des résiliences locales.
Michel Metsawani, que pensez-vous de l'avis ou du point de vue de cet auditeur qui nous a appelé de Lubumbashi?
Oui, je pense que M. Devni a raison d'évoquer la dégradation de la situation sécuritaire de la province de l'Ituri. Et c'était un appel, le rapport de MSF, c'était un rappel à la responsabilité de tous les acteurs. Et pour vous dire, madame, que depuis 2023, qu'on a vu l'assistance de la part de notre gouvernement à travers le ministère des Affaires humanitaires. Et si c'est déjà de 2023, ça veut dire ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a pas une assistance de la part du gouvernement. Je crois que la première ministre était de passage dans la province de l'Ituri au mois de décembre dans sa mission d'évaluation de l'état de siège. C'est à ce moment qu'il y a eu assistance de quelques sites de déplacés dans la province de l'Ituri et qui était une assistance insuffisante parce que le besoin se sentait avec beaucoup d'acuité. Et il y avait une petite assistance qui avait couvert justement le site de IFT, le site de Kigonzi, le site par exemple de Mbeyi et de Telega. Alors qu'il y en a autant de sites qui nécessitaient une assistance humanitaire importante à terme de vivres, à terme de besoins aux soins médicaux, à terme même des enfants qui sont abandonnés à l'âge de scolarité, qui sont en train de mendier chaque jour dans la ville, et donne-moi 100 francs, et en même temps ces enfants sont exposés aux intempéries, et aussi ces enfants seront déjà une bombe à retardement pour la province de l'Ituri. Ce qui veut dire que, madame, la situation de l'Ituri est tellement dramatique, et qui nécessite une intervention de la part du gouvernement. Et surtout, moi je m'attelle parce que c'est la responsabilité du ministère des Affaires humanitaires qui devrait faire sa politique pour que les Congolais qui sont dans cette situation dramatique puissent trouver une réponse appropriée à leurs préoccupations. Et en même temps, cela ne peut pas dire que tous les acteurs humanitaires ne peuvent pas intervenir. Ils sont aussi dans l'obligation de multiplier le moyen, de multiplier aussi le devoir pour que cette population à situation désastreuse, à situation humanitaire et difficile, soit assistée par tous ces acteurs. Et surtout, madame, ce qui fait mal, je crois, le professeur est revenu là-dessus, c'est la situation de l'insécurité. Il y a des enjeux à plusieurs niveaux. L'Ouganda qui a très envié la République démocratique du Congo, particulièrement la zone de l'Ituri, où voilà, il y a UPDF à travers la mutualité des forces. Il y a plusieurs groupes armés locaux qui sont dans nos communautés. Il y a les Mai Mai qui ont quitté le Nord Kivu vers l'Ituri. Il y a les ADF Nalu qui ont quitté l'Ouganda pour décimer notre population dans la province de l'Ituri. Et tous ces éléments laissent la population dans une posture très difficile. Et c'est le moment pour que le gouvernement prenne toutes ses responsabilités pour sécuriser la population, pour multiplier les efforts afin que la paix et l'autorité de l'État soient rétablies.
Merci
pour que la population ait sa paix.
On va prendre à présent cet auditeur qui appelle de quelle province de l'Ituri, justement, qui est dans la ville de Bounia. On va l'écouter.
Georges Kilangalanga depuis Bounia, dans la province de l'Ituri. Les rapports des plaidoyers des Médecins sans frontières présentant la situation des crises sécuritaires et humanitaires en Ituri est une initiative à saluer. Cependant, la réponse que l'État a toujours réservée face à la cruauté que subit la population de l'Ituri est surprenante. Et on se demande si nous vivons vraiment dans un État, si la crise sécuritaire de l'Ituri préoccupe vraiment le gouvernement congolais. Ces constats nous rend sceptiques quant à la prise en compte de cette recommandation par l'État congolais, car cela n'est pas à sa première expérience. Actuellement, la situation reste catastrophique à la suite du gel de financement de l'USAID à plusieurs ONG humanitaires dans la région. La solution durable à ces problèmes passe par la prise de conscience par les autorités congolaises à tous les niveaux pour la restauration de l'autorité de l'État sur toutes les zones touchées par la crise dans la province de l'Ituri.
Professeur Casimir, la solution durable à cette problématique reste la prise de conscience des autorités congolaises sur cette problématique.
L'éditeur a totalement raison, même à 150%. Parce que jusque-là, les populations qui meurent à la suite de la barbarie ougandaise ne comprennent absolument rien. Et ces déficits de communication, pourquoi les autorités politiques administratives locales ne communiquent pas assez? Ne fût-ce qu'une prise en charge psychologique, parce qu'on va de la violence physique à la violence symbolique, on ne peut pas quand même humilier indéfiniment un peuple jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que l'Ituri a fait finalement? Qu'est-ce que la partie de l'Est a fait finalement? S'il y a des compromissions, moi je crois que c'est le moment pour libérer quand même ce peuple. C'est trop quand même, c'est trop. Moi je crois que l'auditeur a totalement raison. C'est la raison pour laquelle je parlais de la mathématisation de la classe politique ou de la configuration politique de l'État. Il y a d'un côté les élites au pouvoir, de l'autre l'opposition. Ils doivent faire franger, n'est-ce pas, pour trouver que les populations accepte réellement que l'État est capable de réaliser ses missions régaliennes. Sinon, nous n'assistons pas véritablement à des situations normales. Il faut changer, il faut à tout prix changer. Ou on gère ou on ne gère pas. Et c'est à ce niveau-là que les grandes décisions, les décisions courageuses doivent être prises par notre gouvernement de la République. Les décisions responsables doivent être prises au niveau de la province de l'Ituri pour libérer ce peuple. S'il y a moyen de mettre fin, par exemple, à l'état de siège, on met fin à l'état de siège, on remet les civils. Et si les décisions peuvent être prises pour nous dire qu'il n'y a plus de mutualisation entre les FARDC et les PDF, on les dit parce qu'on ne peut pas accepter qu'une armée étrangère vienne se battre contre un groupe armé local, que le gouvernement, que la province, que les autorités militaires ne font rien absolument. C'est du théâtre, moi je crois, du théâtre de chez nous. Et on doit arrêter avec ça.
Alors, nous tournons vers la fin de l'émission. Professeur Casimir Ngoubi, ça sera votre conclusion. Hein. Quels sont les principaux défis, selon vous, à relever pour stabiliser la situation en Ituri et permettre un retour à une vie normale pour les populations affectées?
Non, moi je demande au gouvernement de prendre des décisions courageuses. S'il n'y a plus de mutualisation entre FARDC et PDF, qu'on lève l'option. Je suis content de la présence du chef d'état-major qui est allé éclairer la population concernant ce qui se passe depuis plusieurs mois. Et donc, les décisions courageuses s'y posent tout simplement et qu'on remette la pendule à l'heure et qu'on dise exactement ce qu'on doit faire pour libérer les peuples de l'Ituri. Je pense. Et que si on a des responsabilités au niveau des FARDC, des responsabilités au niveau de la classe politique, des responsabilités au niveau des populations elles-mêmes, des communautés qui commencent à importer des forces armées de l'étranger pour pouvoir entrer en ligne dans les conflits qui les caractérisent depuis un certain nombre d'années, moi je crois qu'il faut y parvenir pour laisser cette partie de la République calme parce que l'insécurité n'a que trop duré.
Merci, professeur Casimir Ngoubi. Je rappelle que vous êtes politologue, expert dans les domaines des violences politiques et des groupes armés. Michel Metawani, président de l'Union des associations culturelles pour le développement des Litouri, une structure qui regroupe toutes les communautés des Litouri. Quelles sont, selon vous, les priorités immédiates pour améliorer la situation humanitaire et sécuritaire dans la province de Litouri?
Oui, madame, je l'ai dit à trois mots. Le premier mot, je voudrais que la ministre des Affaires d'Action Humanitaire se ressaisisse à ce moment ici pour savoir que ce sont des humains qui vivent dans la province de Litouri, ce ne sont même pas des sous-hommes, qu'elle se ressaisisse pour prendre des dispositions pour qu'il y ait une ligne budgétaire importante pour couvrir le besoin de la population de Litouri. Et à deuxième niveau, je voudrais à ce que le gouvernement qui ne respectent même pas les droits internationaux humanitaires à ce moment ici, à cause de ces populations qui ne sont même pas assistées, aussi prennent conscience pour que ces populations soient assistées. Et à dernier lieu, madame, et nous avons besoin que l'autorité de l'État soit restaurée dans la province de Litouri, parce que le gouvernement a invité les Nations Unies à travers la MONUSCO aujourd'hui qui a traité d'aider le gouvernement. Voilà, le gouvernement vient de signer un accord avec le gouvernement ougandais. Et voilà, le gouvernement aussi a créé l'état de siège. Jusque là, ça ne répond pas aux besoins de la sécurité dans la province de Litouri. Je crois que le moment est venu, comme a dit le professeur, de prendre des dispositions et des décisions courageuses pour aider la population de Litouri à recouvrer sa paix et sa quiétude pour toutes les populations qui sont dans des sites déplacés, rentrent dans leur milieu naturel et commencent à faire les activités quotidiennes. Et donc, la paix pour la province de Litouri et pour la population de Litouri est une priorité des priorités.
Emmanuel Lompa, vous êtes représentant au pays de Médecins sans frontières en RDC. Vous demandez au gouvernement d'allouer des moyens adéquats pour renforcer le système de soins en Litouri. Quels sont les aspects prioritaires qui nécessitent un renforcement urgent?
Le témoignage que nous avons essayé de livrer à travers ce rapport, risquer sa vie pour survivre, on appelle à l'indignation avant tout. Et puis, nous avons dit, c'est une crise de protection. Donc, avant tout, c'est renforcer la protection des civils. Deux, d'assurer l'accès aux soins, la continuité des soins et le respect de la mission médicale. Et donc, l'offre des soins en répondant aux besoins les plus prioritaires, en intégrant la santé mentale, la prise en charge des souffrances psychologiques de ces gens à déplacement répétitif face à ces atrocités, ce sont clairement des priorités.
Alors, selon vous, quelle est l'évolution possible de la situation en Litouri si rien ne change après votre appel?
Nous osons espérer qu'au moment qu'on ait ce débat, que ces informations circulent, que ça puisse réellement être des informations, des témoignages pour la paix. Et donc c'est ça l'espoir, et au même moment c'est aussi un hommage à nos collaborateurs terrain qui s'efforcent pour continuer à assurer cet accès aux soins, ce soulagement. Donc nous espérons réellement que ce témoignage, on appelle à l'indignation, mobilise davantage chacun et chacune dans son rôle, et qu'ainsi la population de Litouri, et à travers cela l'ensemble de la population de l'Est, puisse retrouver réellement la paix et de la survie puisse passer à la vie.
Alors, une dernière question avant de nous séparer, parce que nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Vous appelez la communauté internationale à agir. Quel type d'action spécifique vous attendez de cette communauté internationale?
Autant que nous l'avons appelé au niveau du gouvernement, je crois que ceci est une crise de protection. Il y a des acteurs clés, prioritaires, qui ont un rôle à jouer, à davantage prévenir ces crises de protection, davantage d'être à côté aussi du gouvernement. Et clairement aussi, au moment que plein d'assistance annonce des coupes budgétaires, je crois, la situation sur terrain, la proportionnalité des besoins, on appelle plutôt à l'inverse. Tant au niveau du gouvernement qu'à ses partenaires, ceci ne peut pas être oublié, ceci ne peut pas être négligé. Ne rien faire, ne pas témoigner, c'est cautionner.
Merci Emmanuel Lompard, Dialogue entre Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Bertin Kassiama, Jonathan Fonani, Clément Chimanga, Hervé Vauquia, Martin Sabouchangoué a supervisé ce programme. Polydor Basunga était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookepi.net. Mais vous pouvez aussi retrouver les temps forts de l'émission sur les comptes officiels Instagram et TikTok de Radio Okapi. N'hésitez pas de liker, de partager, mais surtout de vous abonner. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.